Il y a un célèbre réalisateur américain, celui qui a réalisé notamment Les Dix Commandements, Ben-Hur, qui s'appelle, enfin, qui s'appelait parce qu'il est décédé, un Cecil B. DeMille, qui disait: Donnez-moi 2 pages de la Bible et je vous fais un film. Et on va lire ce matin un récit, parce que dans la Bible, ce sont des récits, ce ne sont pas des histoires. On va lire un récit avec lequel certainement Cecil B. DeMille aurait pu faire un bon film. Akab est roi d'Israël. Israël, c'est le royaume du nord. À l'époque du récit que nous allons lire, le royaume est séparé en deux, Israël au nord et Juda au sud. Et un prophète vient annoncer au roi Akab un jugement contre lui, conséquence d'une désobéissance. C'est dans le livre des Rois, un roi au chapitre 20 et au verset 43. Donc le prophète vient d'annoncer à Akab le jugement de la part de Dieu. 1 Roi 20, 43. Et puis on continuera la lecture. Le roi d'Israël repartit chez lui, triste et irrité, et il arriva ainsi à Samarie. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jisréel avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth: Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Akab rentra chez lui triste et irrité à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jisréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit: Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas? Il lui répondit: C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jisréel et que je lui ai dit: Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a répondu: Je ne te donnerai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit: Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jisréel. Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres: Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et placèrent Naboth au premier rang du peuple. Les 2 vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoignèrent contre Naboth devant le peuple, en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel: Naboth a été lapidé, il est mort. Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Akab: Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Jisréel était mort, Akab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite: Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras: Voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu ajouteras: Voici ce que dit l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie: Tu m'as donc retrouvé, mon ennemi. Il répondit: Je t'ai retrouvé, parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi, je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Acab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel, il dit « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. Le membre de la famille d'Acab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Acab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable, en suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Acab déchira ses habits, se couvrit d'un sac, à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. « As-tu vu qu'Acab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. » Amen. Il y avait de quoi faire un bon film, je pense. Hein. Le cœur d'Acab est plein de cupidité et d'envie pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Le cœur d'Acab est rempli de cupidité et d'envie pour la vigne de Naboth, alors que c'est un bien que Dieu ne lui a pas donné, mais que Dieu a donné à Naboth. C'est une période particulière d'Israël. Dans les textes qui précèdent celui-ci, nous voyons que les prophètes de Baal, un dieu païen, ont été exterminés du pays. Et voici que Naboth, que Acab, même s'il ne continue plus à apporter un culte à Baal, eh bien se trouve une autre idole. Voici qu'il se tourne vers la soif de posséder. Il a envie de la vigne de Naboth qui est à côté de son palais pour en faire un jardin potager. Mais quel besoin avait le roi d'un jardin potager ? N'avait-il pas déjà assez de biens, assez de propriétés, assez d'honneur ? Non, il a cette soif de posséder qui l'envahit. Et il veut la vigne de Naboth pour en faire un jardin potager. Paul dira aux Colossiens, chapitre 3, verset 5, je l'ai noté pour pas que nous ayons à le chercher, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. » L'attachement au bien est une forme d'idolâtrie comme l'était le culte de Baal. Dès que quelque chose prend le pas dans notre vie sur Dieu, prend la première place, c'est une idolâtrie. Si on adore une créature de Dieu, que ce soit des anges, que ce soit des gens formidables, si on s'adresse à eux plutôt que de s'adresser à Dieu, c'est une idolâtrie. Il ne faut pas s'adresser à la créature, mais au Créateur. Il ne faut laisser prendre le pas dans notre vie à rien. C'est Dieu qui doit avoir la première place. La proposition que fait Acab à Naboth peut paraître normale. Il ne lui vole pas. Il ne dit pas « je suis le roi, je te prends ta vigne, tu n'as rien à dire ». Non, ça peut paraître normal finalement. Il lui dit « donne-moi ta vigne et je te donnerai sa valeur en argent ». Donne-moi ta vigne, si tu ne veux pas me la vendre, eh bien je te donnerai une autre terre, une autre vigne, ce que tu voudras ailleurs. Mais je veux cette vigne. Et la réaction de Naboth peut nous paraître un peu abrupte, un peu sèche. Non, il n'en est pas question. Naboth, il ne discute même pas. Il ne dit pas, bon, combien tu m'en donnes, bon, ça, quand même, c'est difficile que tu demandes. Non, son refus est catégorique. Sa réaction est claire et nette. Mais non, cette proposition d'Akab, elle n'est pas normale, parce qu'elle a des conséquences à long terme. Akab veut la terre de Naboth. Faire un échange ou la payer en argent, ça faisait de lui le propriétaire définitif de cette terre. Mais Naboth craint Dieu et il ne peut accepter de telles conditions. En effet, un Israélite pieux ne vend pas sa terre. Il n'en vend que les récoltes, en fait. Et au bout d'un certain temps, l'année du jubilé, l'année du tous les 50 ans, toutes les dettes sont annulées et la terre revient au propriétaire initial. Ce que demande Akab à Naboth, c'est d'enfreindre un commandement divin. Ce que demande Akab à Naboth, c'est de désobéir à Dieu. Ce que Naboth refuse catégoriquement, parce qu'il est pieux et intègre. Naboth craint Dieu et il tient l'héritage de ses pères parce que ses pères ont reçu eux-mêmes cet héritage de l'Éternel. Je vais simplement lire un passage du Lévitique au chapitre 25 et au verset 23. « Les terres ne se vendront pas de façon définitive, car c'est à moi que le pays appartient et vous êtes chez moi. » comme des étrangers et des immigrés. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez un droit de rachat pour les terres. Naboth tient seulement à faire respecter les commandements divins. Naboth n'est pas attaché à un bien matériel. Naboth n'est pas attaché à une rémunération financière. Non, cette terre doit rester à Naboth et à sa famille. Il ne doit pas la céder à Akab et à la sienne. Elle doit rester dans sa famille. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Au verset 3, nous avons lu. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. C'est une question spirituelle. Et voici que, comme nous l'avons lu à la fin du chapitre 20, Akab rentre chez lui, triste et irrité. On a l'impression d'avoir affaire à un enfant qui va bouder. Dans le magasin, on lui a pas acheté le jouet qu'il voulait. Alors il rentre chez lui, il va se coucher sur son lit, la face contre le mur, et il boude. Il boude. Il est triste, irrité, il est en colère parce qu'il a pas ce qu'il souhaite. Et alors, Jézabel, la femme d'Akab, entre en scène. C'est important, le conjoint. C'est important. Eh bien, Akab, il n'était pas bien marié. Jézabel entre en scène et va faire appel à l'orgueil d'Akab. Est-ce bien toi maintenant qui es roi d'Israël? Mais lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jisréel. Non mais c'est toi le roi, Akab, c'est toi le roi. Et un petit Naboth t'empêcherait de faire ce que tu veux. Et un petit Naboth sous prétexte de fidélité aux lois de Dieu, sous prétexte de fidélité à l'Éternel, va t'empêcher d'avoir cette vigne à côté de ton jardin, à côté de ton palais pour en faire un jardin potager. Non, je vais te donner ce jardin, cette vigne. Et voici que Jézabel entraîne Akab sur le terrain du mensonge et du meurtre. Et Akab se laisse faire. En son nom, elle va écrire des lettres, les signer. En son nom, elle va agir. Elle a imaginé toute une machination, tout un plan pour que ce vol, pour que ce meurtre paraisse tout à fait légal. Tout à fait légal. Il faut deux témoins pour établir la culpabilité de quelqu'un. Elle trouve deux faux témoins. Elle veut que Naboth cède la vigne à Akab. Eh bien, elle va faire mourir Naboth. Pour que quelqu'un soit condamné à mort, il faut qu'il soit reconnu coupable de blasphème. Naboth va être reconnu coupable de blasphème. C'est quand même incroyable. Jézabel, elle-même adoratrice de Baal, va faire tuer Naboth pour la raison de blasphème. C'est le monde à l'envers. Celle qui méritait la mort pour blasphème, c'était elle, et pas Naboth. Et ces deux faux témoins, nous l'avons lu, vont témoigner que Naboth a maudit Dieu et le roi. Et avec le concours des anciens et des magistrats de la ville qui participent à cette injustice, à ce simulacre de justice, Naboth est condamné à mort. Et même dans le deuxième livre des rois, nous avons ce détail qu'il est lapidé avec ses fils. Naboth et ses fils sont lapidés. Comme ça, ils sont bien sûrs que personne ne viendra réclamer l'héritage. Naboth et ses fils sont lapidés. Mais quel mensonge, quel faux procès, quelle injustice, quelle chose révoltante il y est en train de se passer là. Parce qu'en réalité, Naboth est mort, mais parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il respectait les commandements de Dieu. Mais comment Dieu a-t-il pu laisser faire cela? Comment Dieu a-t-il pu accepter que Naboth meure et que Akab et Jézabel vivent, qu'ils arrivent à acquérir de cette façon cette terre? Comment Dieu a-t-il permis cela? Les vrais blasphémateurs, c'est Akab et Jézabel. Où est la justice? Dieu serait-il injuste? Dieu serait-il injuste? Nous avons lu la suite, qui selon nos critères quand même peut sembler plus juste. Le prophète Élie, qu'Akab appelle son ennemi, va venir. On ne peut pas mentir à Dieu. Hein. Et Élie vient révéler verbalement ce qu'a fait Akab et Jézabel par-dessous, en douce. Tu es un assassin et un voleur. Et voici qu'Élie annonce pour eux, de la part de Dieu, un châtiment terrible. C'est terrible hein, ce qui va arriver à Jézabel et à Akab. Akab a eu le pire comportement de tous les rois d'Israël. Ils ont voué avec sa femme un culte à Baal et ils ont entraîné le peuple à vouer un culte à ce Dieu. Et vouer un culte à Baal, le culte de Baal, c'était quelque chose d'abominable. Hein. Il y avait tout un système de prostitution sacrée. C'était un culte très charnel. Il y avait aussi des sacrifices humains. Des fils ont été passés par le feu en sacrifice à Baal. C'était vraiment quelque chose d'affreux, d'abominable, d'inacceptable. Il mérite bien sa punition, Akab, dites-moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'Akab mérite sa punition? Oui. Est-ce que Jézabel mérite sa punition? Oui. Et voilà qu'Akab s'humilie, se repent et que Dieu a compassion de lui et qu'il reporte sa punition. Est-ce que c'est juste ça? Akab se repent et s'humilie. Mais vous avez vu qui c'est Akab? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il s'humilie et se repent. Et Dieu lui pardonne. Le pire roi d'Israël, parce qu'il s'humilie et parce qu'il se repent, Dieu lui pardonne. Mais Seigneur, pourquoi tu le laisses vivre ? Naboth, lui, craignait Dieu. Et son respect pour la parole de Dieu s'étendait certainement à tous les domaines de sa vie. S'il respectait la parole de Dieu en ce qui concerne les héritages, mais certainement qu'il respectait la parole de Dieu dans tous les domaines de sa vie, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne le mensonge, tous les domaines. Naboth, c'était quelqu'un de droit, c'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui respectait Dieu et sa parole, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Si on était dans le Nouveau Testament, on pourrait dire que Naboth, il était converti. On pourrait dire que Naboth, son Seigneur et son Maître, c'était Jésus. Et c'est lui qui meurt. Mais dites-moi, il fallait aimer Dieu pour oser s'opposer au roi. Il fallait vraiment aimer les commandements de Dieu, ne pas vouloir faire de la peine à Dieu, vouloir vraiment respecter tout ce que Dieu demandait pour oser s'opposer au roi. Ce n'est pas n'importe qui, Akab, c'est le roi d'Israël. Et voici que le petit vigneron Naboth, par respect pour Dieu, par amour pour son Seigneur, il ose s'opposer à lui et lui dire « Non, ce que tu me demandes, c'est contraire aux lois de Dieu. Non, je ne le ferai pas. » Il a fait le bien et c'est comme ça qu'il est récompensé. Il est lapidé avec ses enfants. Mais c'est quelque chose de terrible. Qui est maître de la vie de Naboth ? Est-ce le diable ? Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Alors pourquoi Dieu a permis cette apparente injustice ? Le texte ne nous le dit pas. Peut-être qu'on peut imaginer, c'est une supposition, que Dieu a permis cette injustice pour qu'Akab se repente au moins une fois dans sa vie. C'est la seule fois où Akab se repent sincèrement de ses péchés et s'humilie. La repentance est sincère parce que Dieu qui sait toutes choses reporte son châtiment. Et si Naboth était mort de cette façon affreuse et injuste pour permettre à Akab de se repentir au moins une fois de ses péchés, pour permettre à Akab d'être sauvé. Parce que si Naboth est mort, on peut imaginer où il est allé après la mort, auprès de son Seigneur. Donc effectivement, sur cette terre, il est mort, mais il va passer l'éternité avec son Seigneur. Tandis qu'Akab, ah, il a eu ce qu'il voulait. Akab, il est roi d'Israël. Mais s'il ne se repent pas, mais il va passer l'éternité séparé de Dieu. Il appelle le prophète de Dieu son ennemi, mon ennemi. Eh oui, Akab, c'est l'ennemi de Dieu. Quand on ne fait pas ce que Dieu veut, on est son ennemi. Et Dieu certainement voit cela. Oui, Naboth est mort avec ses fils, mais il est au ciel. Que si Akab meurt là, il va en enfer pour l'éternité. La Bible ne le dit pas, mais c'est une supposition que l'on peut faire. Des événements peuvent nous sembler injustes sur la terre. Des circonstances de nos vies peuvent nous sembler injuste. Ce qui est certain, c'est que Dieu est juste et équitable. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Psaume 145, 17. Frères et sœurs, appuyons-nous là-dessus. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. Dieu fait toujours ce qui est le mieux. Dieu tient ses promesses. Dieu secourt les siens. Dieu secourt ceux qui lui appartiennent. Il les protège, il les délivre. Et il punit le pécheur. Mais il pardonne à celui qui change d'attitude. Il pardonne à celui qui se repent. Abraham va s'interroger à propos de Sodome parce que Dieu a révélé à Abraham qu'il allait détruire Sodome. Et Abraham s'interroge. Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? Genèse chapitre 18, verset 25. Et on connaît cette histoire de Sodome. Dieu était prêt à épargner toute la ville s'il se trouvait 10 justes. Seulement 10 justes, toute une ville pour 10 justes. Il n'y était pas. Mais celui qui, quand même, d'une certaine façon, avait encore un certain respect et une certaine crainte pour l'Éternel, à savoir Lot, il l'a fait sortir de la ville. Il a envoyé deux anges pour le chercher. Et ils ont presque dû le prendre par la peau du cou pour le faire sortir de la ville avant que Dieu ne la détruise. Dieu est juste. Dieu est juste. Le seul qui peut-être ne méritait pas complètement ce châtiment. Parce que quand même, quand on lit Lot, quand on lit tout ce qu'il a fait, on peut se poser la question, mais non, même celui-là, même Lot, Dieu, il l'a sorti de la ville avant de la détruire. Dieu est juste, n'en doutons pas. Dieu est juste et il veut sauver le pécheur. Le psalmiste affirme, « La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. » La justice et le droit forment la base de ton trône. Ne doutons jamais, frères et sœurs, de la justice de Dieu. Dieu, dans le monde, il a institué un gouvernement moral. Et les lois des hommes s'en écartent de plus en plus. Mais à partir du moment où l'homme ne fait pas ce que Dieu a prévu, il y a péché. Et il doit y avoir sanction. C'est quelque chose d'obligatoire. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Si Dieu a institué des règles et un règlement, il ne peut pas autoriser quelqu'un à l'enfreindre sans qu'il y ait punition, sans qu'il y ait sanction. Mais nous l'avons vu pour Akab. Dieu pardonne. Dieu pardonne parce que Dieu aime. Parce que Dieu aime sa créature. Dieu pardonne. La condamnation de Naboth, c'est une injustice à nos yeux. Et la condamnation de Jésus, n'est-ce pas une injustice ? Là aussi, il y a eu simulacre de procès. Là aussi, il y a eu des faux témoins. Là aussi, il a été condamné à mort pour blasphème. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, incarné dans un homme qui meurt parce qu'il a blasphémé. C'est le monde à l'envers. Mais la véritable raison, pourquoi est-ce qu'il est mort, Jésus ? Pour nous ouvrir le chemin du ciel. Jésus, il est mort, pas parce que c'était une injustice, même si c'en était une. Jésus, il est mort pour que je puisse être sauvé. Jésus, il est mort pour que tu puisses être sauvé. Jésus, il est mort pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Quelqu'un a pris ta place sur la croix. Quelqu'un a pris ma place sur la croix. Et à cause de cela, Jésus peut te pardonner. À cause de cela, si tu t'humilies, si tu demandes pardon, si tu prends conscience que tu es pécheur, simplement, ben Dieu te fait grâce. C'est la seule chose que Dieu demande à l'homme. La seule. Akab s'est humilié. Et Dieu lui a fait grâce. Alors il ne s'est pas humilié jusqu'au bout, parce que quand même, vous lirez la fin de l'histoire, il ne s'est pas complètement converti, Akab. Parce qu'il va mourir. Il va être puni de Dieu. Mais il a eu l'occasion, l'opportunité de le faire comme chaque être humain. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, nos fautes à tous. La justice de Dieu a été pourvue. Jésus a pourvu pour nous. En effet, le Fils de l'homme est venu pour être servi. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus, il est mort parce que le Père le voulait, parce que lui le voulait, pour nous permettre d'être sauvés, pour que la justice de Dieu reste juste. Quelqu'un a payé à notre place. Alors, je ne sais pas si on peut dire que Naboth a payé à la place d'Akab, mais en tout cas, ça a été une occasion donnée à Akab par cet intermédiaire de se repentir, de se repentir. Et il l'a saisi. Pas jusqu'au bout, malheureusement, mais il l'a saisi. Dieu ne supporte pas le mal. Il ne peut pas le laisser impuni. Zacharie 8, 17. Que personne ne projette dans son cœur le mal contre son prochain et n'aimez pas le faux serment, car tout cela, je le déteste, déclare l'Éternel. Dieu ne peut supporter le péché. Il est saint. C'est pour cela que Jésus est mort, parce que nous sommes des pécheurs et qu'il fallait que quelqu'un paye à notre place pour nous ouvrir le chemin du ciel, pour qu'il n'y ait rien qui nous sépare de Dieu, pour que nous puissions passer l'éternité avec Jésus, si nous le voulons. Si, comme Akab, nous nous repentons, même si nous sommes bien loin d'avoir accompli toutes les horreurs qu'a accompli Akab. La justice de Dieu ne doit pas être pour nous une source de doute, d'incompréhension, d'irritation, d'amertume. Mais un encouragement. Dieu est juste et Dieu juge avec justice. Soyons-en certains, soyons-en assurés, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Ce qui n'a pas été réglé ici-bas, ça le sera plus tard, mais ça le sera. Toutes les œuvres justes ne passeront pas inaperçues ce jour-là. La fidélité de Naboth ne passera pas inaperçue. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. Proverbe 19, 17. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Hébreux 6, 10. Rien ne sera oublié. Rien n'est oublié. Ne soyons pas impatients. Dieu est juste. Faisons-lui confiance. Et s'il punit le pécheur, il lui fait grâce aussi. Si le pécheur s'humilie et se repent, il lui fait grâce. N'importe quel pécheur. Et je termine par cette lecture d'Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Amen. Jésus va revenir nous chercher et tout sera révélé. Et ce qu'a fait Naboth, ça sera révélé. Sa droiture, sa mort à cause de sa foi, à cause de son respect pour Dieu, ce sera révélé. Le plus important, frères et sœurs, c'est où je passe l'éternité. C'est ça le plus important. Dieu est juste. Et si j'ai demandé pardon pour mes péchés, je passerai l'éternité avec lui. Et tout ce que j'ai fait de bon sur cette terre, même si personne ne le sait, Dieu le sait. Et j'en recevrai la récompense. Amen. Seigneur, nous te louons parce que tu es juste. Nous te louons pour le salut en Jésus-Christ. Merci parce que Jésus sur la croix a été cette victime expiatoire. Merci parce que sur la croix, Jésus est mort à notre place. Et ta justice est rassasiée. Si nous acceptons que nous sommes pécheurs, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, alors nous sommes pardonnés. Merci pour cette grâce immense que tu nous fais. Le pécheur peut être pardonné.